c'est par un beau jour de pluie, tout à fait adapté au climat des livres de Modiano, que nous pouvons commencer ce cours. Pour moi, c'est un plaisir de présenter un texte de Modiano, et spécialement celui-ci, parce que je l'avais déjà présenté dans un cours ici à l'Institut, il y a 10 ans exactement, en 1998, quand la traduction est parue au Japon. Je faisais un cours qui s'appelait « On vient de traduire » et dans les 10 séances, je présentais 6 ou 7 ouvrages qui étaient récemment parus en version japonaise, que je présentais évidemment en français. Dans la version française, vous connaissez mon niveau de japonais, hein, c'était pas envisageable. Mais ça pouvait donner l'idée de lire ces auteurs qui venaient d'être traduits en littérature, en sciences humaines, en critique littéraire, etc. Et puis, donc 10 ans après, maintenant il faut que je mette des lunettes pour lire de près. Donc les choses ont changé effectivement. Mais c'est encore très embêtant pour regarder les gens. C'est-à-dire, je ne suis pas encore assez atteint pour garder les lunettes tout le temps. Bon, on verra si je fais comme Bernard Pivot. Vous avez vu déjà Bernard Pivot dans les émissions Apostrophe à la télévision? Alors, il est toujours avec ses lunettes comme ça, et puis comme ça, et puis posé à côté. C'était un jeu de théâtre, hein, qui est devenu très célèbre, mais je n'ai pas encore d'entraînement. Donc, on verra. Et je parle de Bernard Pivot parce que on va parler de Bernard Pivot pour Modiano, en vous présentant cet auteur. Alors, je suppose que tout le monde connaît déjà Modiano de nom, au moins de nom. Et puis, certains livres assez célèbres en France et à l'étranger. Son premier livre, déjà, a été très célèbre, étonnamment, hein, puisque un jeune auteur de 20 et quelques années n'a pas toujours beaucoup de succès, et qui était La place de l'étoile en 1968. Une année où on parlait d'autre chose que de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait déjà, pour Patrick Modiano, une situation à contre-courant. Contre-courant, c'est-à-dire au contraire, courant contraire de ce qui était moderne, contemporain, actuel. Alors, en 68, bien sûr, c'était la contestation des étudiants, l'association des étudiants et des travailleurs, hein, qui était une première historique en France. Bon. Et Modiano, pas du tout, enfin, pas personnellement engagé dans cette action. Je ne dis pas qu'il n'était pas intéressé, parce qu'il devait être intéressé comme tout le monde, mais pas engagé, intéressé par d'autres choses. Et puis, on va reprendre un peu plus systématiquement pour Modiano. En effet, en 68, quel âge il avait, d'où il venait, etc. Bon, il est né en 1945. 1945, évidemment, c'est une date très importante pour tout le monde. C'est la fin de la guerre. En Europe, on peut dire que c'est, oui, c'est la fin de la guerre et puis le début d'une politique de reconstruction. Il faut reconstruire. S'il faut reconstruire, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont détruites, comme c'était le cas également au Japon. Là, il y a entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Japon, la Pologne, quelques autres pays, une communauté de destruction, quel que soit le côté où on était pendant la guerre, et il faut reconstruire en essayant de redevenir amis entre les pays, donc en ne parlant plus des querelles, des conflits qu'il y avait eu auparavant. C'est-à-dire aussi une volonté d'oublier. Et cette volonté d'oublier, elle a été très forte dans les médias, dans les messages politiques, à partir de 1945. il faut faire l'union nationale, il faut refaire l'union internationale, et donc il faut oublier les querelles, les guerres, les haines entre les peuples. On peut le comprendre, bien sûr. Mais en même temps, ça voulait dire aussi qu'il faut oublier et laisser tranquille tous les criminels. Tous les criminels qui n'ont pas été arrêtés et qui peuvent alors vivre tranquillement dans le pays de leur choix, quels que soient les crimes qu'ils ont commis. Et parfois, des crimes énormes. Hein, les responsables d'arrestations, de déportations de juifs, mais pas seulement de juifs, également de communistes, d'homosexuels ou d'autres types de groupes nommés par les nazis ou par la police française, ou dans d'autres pays d'ailleurs, ces criminels, pour un grand nombre, ont échappé à toute poursuite judiciaire, toute condamnation. Après quelques années, hein, un mouvement quand même s'est mis en place pour les rechercher et même ensuite les rechercher partout, dans tous les pays. On a retrouvé des chefs de camps nazis en Amérique du Sud et encore récemment, on a fait des découvertes d'identité, y compris de personnes qui vivaient tranquillement en Allemagne, dans leur propre pays, et qui avaient réussi à changer d'identité. Bon, on peut dire en effet, c'est quand même un petit nombre de gens très criminels à côté d'une majorité de gens qui ont besoin de reconstruire leur pays. Donc, on pouvait comprendre. Mais, dès le début, 45, 46, 47, des personnes ont commencé à rechercher les criminels. C'est donc dans cette ambiance nationale, internationale, qu'est né Patrick Modiano. Dans une famille un peu bizarre, sa mère était actrice, c'est-à-dire souvent en déplacement, en tournée, très occupée par les relations entre les acteurs dans le milieu de travail. Et vous savez que, je crois dans tous les pays, hein, les familles d'acteurs ne sont pas réputées pour s'occuper bien des enfants. C'est pas toujours le cas. Et son père qui était né en 1912, donc il avait une petite quarantaine d'années, enfin à moins de 40 ans à la fin de la guerre, son père faisait des affaires. Alors on ne sait pas très bien quelles affaires. Vendre et racheter, enfin des choses plus ou moins honnêtes, et y compris pendant la guerre, d'ailleurs. Donc ça sera un gros point d'interrogation pour Patrick Modiano, son fils, hein, pendant toute sa vie, de savoir qu'est-ce que son père a fait exactement pendant la guerre. Traduire la question de quel côté il était. Neutre, comme une majorité de gens qui avaient peur, qui s'inquiétaient pour leur vie personnelle, engagés du côté de la résistance, engagés du côté de la collaboration avec les Allemands ou les autorités françaises de Pétain, ou bien jouant un jeu plus compliqué. Il y a des gens qui jouaient des choses très compliquées, à être à la fois du côté collabo et en même temps donner des informations à la résistance, surtout vers la fin de la guerre, quand il a été évident que les alliés, américains, canadiens, etc., allaient gagner. Beaucoup de gens qui étaient du côté allemand ont commencé à déplacer leurs activités tout doucement pour dire « Ah, mais moi j'étais résistant, j'ai aidé, j'ai participé ». Bon, il y a beaucoup de films, de documentaires qui montrent déjà ces activités, vous le savez sans doute. Néanmoins, pour chaque personne, dans chaque famille, on se demande « Voilà, qu'est-ce que mes parents ont fait ?» Alors, bon, pour Modiano, c'était c'était comme ça, et évidemment pas tout de suite, hein, pas le petit Modiano de 5-6 ans, donc c'est un peu plus tard, justement, à l'adolescence. Donc j'ai dit, il est né en 1945, je vais l'écrire pour que ça nous aide à compter les années. En 1957, il avait un frère cadet qui était né 2 ans après lui. En 1957, son frère est mort d'un accident. Donc son frère avait 10 ans, lui-même avait 12 ans. C'était un très gros choc pour le petit garçon. Et on peut penser raisonnablement qu'il a toujours regretté ce frère, qu'il lui a toujours manqué. Et on va peut-être retrouver des traces dans Dora Bruder, évidemment, des propos sur le frère, mais peut-être même le livre lui-même a une relation avec cela. On verra. En 1900, alors ses parents se sont séparés. Bon, ça arrive souvent, ils ont divorcé, et les deux enfants, et puis ensuite un seul enfant, est allé à l'école dans différents lieux de France, confié parfois à des amis, donc pas tellement de relations familiales. Disons de bonne qualité. En 1959 ou 60, c'est-à-dire à 15 ans à peu près, son père lui a fait une confidence très importante, volontairement ou involontairement, dans une discussion. Son père lui a dit qu'il était juif, qu'il était juif non recensé par les autorités pendant l'occupation, pendant la guerre. Vous savez que les Juifs étaient recensés. On a demandé à partir de 41 ou 42, enfin, il y a plusieurs étapes, aux Juifs de se désigner, de se nommer, et on leur a demandé de porter une étoile jaune. C'est d'ailleurs l'origine du titre « La place de l'étoile », qui a un double sens. C'est la place de l'étoile à Paris, hein, que tout le monde connaît, tout près de l'endroit où étaient des militaires, des policiers pro-allemands. Et en même temps, c'est la place où on doit coudre l'étoile jaune sur les vêtements. Ça, c'est la place de l'étoile. Et cette place de l'étoile, c'est vraiment une place, on pourrait dire, honteuse, hein, pour l'humanité, pour les autorités qui ont déclaré, qui ont fait des lois pour demander ses étoiles. Donc son père, juif, non recensé sous l'occupation, mais cependant arrêté par la police lors d'un contrôle quelconque, on s'est aperçu qu'il était juif. Vous êtes juif et vous n'êtes pas recensé dans le fichier, dans la liste des juifs, c'est un crime. Donc on vous arrête. Il a été emmené dans un premier camp qui s'appelait le dépôt dans Paris, et il devait être conduit à un autre camp de banlieue parisienne qui s'appelle le camp de Drancy, qui est très célèbre, tristement très célèbre bien sûr. Tristement célèbre parce que les personnes qui ont été emmenées au camp de Drancy ont attendu un certain temps et ont ensuite été emmenées en train dans ce qu'on a appelé les camps de concentration, où on pouvait concentrer des gens pour les faire travailler. Et on ne savait pas d'ailleurs au début que certains camps de concentration étaient aussi des camps d'extermination, c'est-à-dire des camps où on a massivement tuer des centaines de milliers et puis des millions de personnes. Donc il faut bien faire la différence entre camps de concentration où on va concentrer les gens, éventuellement pour les faire travailler ou pour les déplacer encore, et puis les camps, je vais mettre en dessous, d'extermination. Alors bien sûr, le camp lui-même ne s'appelait pas camp d'extermination. C'était tout à fait caché, et on dit que les villageois allemands qui habitaient à côté de Dachau ou de Buchenwald ne savaient pas ce qui se passait dans ce camp. Bon, certains habitants ont quand même deviné, plus ou moins, en voyant que des gens entraient toujours dans le camp et qu'ils n'en sortaient jamais. Bon, qu'est-ce qu'on pouvait en faire ? Et puis on voyait des cheminées avec des fumées comme ça. Bon, il ne faut pas être très 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 intelligent pour comprendre, même si c'est tout à fait horrible. On se dit, non, c'est pas possible. Bon, c'était possible. Mais évidemment, cette terminologie, ces mots, ont été employés après la guerre pour nommer ce qui s'est passé et commencer à étudier sérieusement tout ce qui s'est fait. Alors, dans cette confidence du père, juif non recensé, arrêté, emmené au dépôt, qui devait partir pour Drancy et qui, miraculeusement, a été libéré. Quelqu'un, dit le père, quelqu'un m'a fait sortir de là. Alors, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui serait vous ou moi. Vous voyez, je téléphone, oui, voilà, monsieur a été arrêté, c'est une erreur, libérez-le. Non, ce n'est pas possible. Il fallait que ce quelqu'un soit une personne importante et une personne du côté de la police française ou du côté des Allemands. Et Patrick Modiano ne le sait pas, son père ne le lui a pas dit, et pendant plus de 30 ans, Patrick Modiano va chercher les informations pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire savoir si il doit avoir honte de son père, parce que bon, Patrick Modiano n'est pas pro-nazi, il n'est pas anti-juif, c'est-à-dire antisémite, au contraire, donc il va évidemment détester toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces crimes. Et si son père en fait partie, oh, c'est horrible. Donc bon, si son père a fait un peu de trafic, marché noir, vous savez, bon, c'est possible, hein, c'est pas un crime. Bon, il y a plusieurs degrés comme ça. Ensuite, il y a des gens qui ont dénoncé des juifs. C'est-à-dire, on écrit ou on téléphone à la police pour dire « mon voisin est juif ». Bon, alors on l'arrête, et après, on va dans les maisons et on récupère les meubles, les bijoux, etc. Donc, ça aussi, c'était tout à fait courant, très courant dans Paris. Il y a aussi des films que vous avez peut-être vus, même des films très connus, très célèbres. Donc, voilà, si le père est comme ça, c'est tout à fait honteux, et le fils veut savoir. Et cette volonté de savoir va être le moteur de l'enquête, le moteur de la documentation et le moteur de l'écriture, tout simplement. L'écriture commençant pour le premier roman vers 1964. Donc vous voyez, il a à peine 19 ans. Il a son bac, il a réussi son bac. Son père, il s'était disputé avec son père. Son père voulait le faire entrer dans l'armée comme militaire, un peu pour se débarrasser du fils. Bon, il est pas entré dans l'armée, il est entré à la Sorbonne pour faire des études. C'est quand même pas du tout la même chose. Et il a commencé à écrire. Voilà. Et puis, son père est mort en 1978, donc quand même un petit peu plus tard, plus de 10 ans après, mais ils n'ont jamais réussi à se réconcilier. Donc la dispute est restée tout à fait ouverte, et le père est mort sans que son fils et lui aient vraiment discuté, repris les relations. Bon, ça arrive, tant pis. Après son baccalauréat, donc en 1964, il va commencer à écrire ce livre, et tout d'abord pour commencer sa quête, sa recherche, hein, son enquête familiale, et en même temps pour lutter contre l'antisémitisme. Parce que, malheureusement, malgré la fin de la guerre, et la victoire évidemment des Alliés, l'antisémitisme n'a pas cessé en France, n'a d'ailleurs jamais cessé depuis la fin du XIXe siècle, hein, au moins depuis son succès en quelque sorte, hein, à l'époque de l'affaire Dreyfus, où l'antisémitisme est devenu une sorte de pensée nationale. Même si finalement, bon, Dreyfus a été acquitté, lavé, mais le soupçon, entre guillemets, est resté. Hein, et même encore récemment, en France, on a fait interdire des livres d'école et des dictionnaires qui notaient que Dreyfus était réputé innocent. Alors qu'on ne doit pas dire ça, on doit dire qu'il était innocent. Parce que réputé innocent, ça veut dire, bon, on peut quand même penser autrement, on pourrait discuter. Non, il n'y a pas à discuter. Tous les documents, maintenant, hein, après des années de... Bon, tout est clair, voilà. Mais l'antisémitisme a continué à maintenir l'idée d'une faute de Dreyfus, et qui est en fait la faute toujours éternel des Juifs, d'avoir tué Jésus-Christ ou d'autres choses. Hein. Après, on les accuse de monopoliser l'argent, de capitaliser les choses. Bon, cet antisémitisme a plusieurs niveaux intellectuels, des gens de la rue pas très cultivés, qui sont sans savoir pourquoi antisémites, jusqu'à des gens très 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 éduqués, et qui ont une véritable conscience de devoir lutter contre un peuple, contre une religion. Donc ça, Patrick Modiano y a été sensible, parce qu'il s'est demandé lui-même s'il était juif. Alors, son père est juif, sa mère ne l'est pas. Dans la religion juive, l'appartenance à la religion se transmet par la mère. Donc, par sa naissance, Patrick Modiano n'est pas juif. Mais, évidemment, étant d'un père juif, ayant des connaissances, des amis, des membres de la famille, il est quand même un peu juif. Et il va être sensible, évidemment, au drame de la guerre, et historiquement, plus largement. Voilà donc pourquoi il écrit ce livre « La place de l'étoile ». La place de l'étoile qui va être, comme je disais tout à l'heure, un contre-courant historique. Le courant historique en 68, c'est le nouveau roman, c'est des revues très modernes, d'écriture assez complexe, intéressante, originale. Il y aura aussi Solers, la revue telle qu'elle... Des choses comme ça très avant-gardistes, hein, on peut dire d'avant-garde. Or, l'écriture de Patrick Modiano et les thèmes qu'il va utiliser sont plutôt du côté du passé, de la nostalgie, du souvenir, avec une écriture, on va dire, d'apparence simple. D'apparence. Hein, quand on lit comme ça, c'est facile. Et puis quand on réfléchit un peu, c'est quand même bien construit. Hein. C'est pas juste écrit comme ça, facile, justement. La place de l'étoile va obtenir 2 prix littéraires. Pour un jeune romancier, c'est très bien. Un prix qui est le prix Fénéon et un autre le prix Mimier. Bon, ce n'est pas la peine de retenir ces petits détails, disons, de la vie littéraire. Mais ça veut dire aussi qu'il est tout de suite visible, connu, au moins dans le monde littéraire. Il faudra attendre quand même presque 10 ans, 1977, une célèbre émission de télévision qui s'appelle Apostrophe. Avec Bernard Pivot, celui des lunettes dont je vous parlais tout à l'heure, qui a animé cette émission pendant très longtemps, pendant, je sais pas, peut-être 20 ans, hein, je n'ai pas vérifié exactement, mais chaque semaine, il y avait des écrivains, des intellectuels qui venaient présenter leur nouveau livre, ou bien des personnalités très importantes qui choisissaient quelques écrivains ou autres à inviter. En 1978, Pivot invite Patrick Modiano et présente un jeune homme, donc 78, vous voyez l'âge qu'il a, un jeune homme de 33 ans, très timide, contrairement à beaucoup d'écrivains, c'est toujours prêt à parler devant la caméra de télévision, non, très timide et qui n'arrive pas à parler. C'est tout à fait étonnant de regarder cette émission aujourd'hui. On voit quelqu'un qui n'a... Ah oui, alors... non, je voulais... Ah, mais... non, il faut... C'était comme ça. Pendant plusieurs minutes. Et je ne me souviens pas exactement, mais enfin, je me souviens quand même un peu d'avoir vu cette émission. Et on était étonnés. Mais qui c'est? Qui c'est celui-là? voilà. Et en même temps, il était très charmant, très sympathique. Et il est devenu très populaire. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, mais justement, il sait écrire. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Alors, en 78, il présentait un livre qui s'appelle Rue des boutiques obscures, qui est aussi un de ses livres très célèbres, Rue des boutiques obscures. Il y a eu un film qui s'est inspiré de ce livre, et entre la place de l'étoile et rue des boutiques obscures, il a publié un ou deux autres livres qui ont été assez célèbres, les boulevards de ceinture, qui sont les boulevards périphériques, hein, autour de Paris, mais avant la construction de l'autoroute périphérique. Donc aujourd'hui, on les appelle les boulevards intérieurs, parce qu'ils sont à l'intérieur de Paris, à l'intérieur du périphérique autoroute. Et puis, un autre livre, également très célèbre, qui s'intitule « Villa triste », que vous connaissez peut-être aussi. Voilà, donc avec Rue des boutiques obscures, Villa triste, les boulevards de ceinture, la place de l'étoile, il était déjà très connu et cette fois découvert par le grand public, hein, puisque beaucoup de gens regardaient cette émission de la télévision française. Contrairement à aujourd'hui, je dirais, hein, où les émissions littéraires de la télévision sont regardées par un très petit nombre de gens, quelques centaines de milliers de personnes. Bon, alors, si ça vous intéresse, vous pouvez revoir cette émission ou d'autres émissions avec Patrick Modiano sur le site internet de l'INA, I-N-A, qui est l'Institut National de l'Audiovisuel et qui a la charge administrative de conserver tous les enregistrements de télévision et de radio français. Une sorte de banque nationale, hein, de bibliothèque nationale de la télé et de la radio. Et l'INA, depuis 2-3 ans maintenant, a un site internet ouvert à tous les publics qui permet de visionner gratuitement ou en payant toutes sortes d'émissions, des journaux, des fictions, des débats, des émissions comme ça. Alors, si sur le site de l'INA, vous cherchez simplement Modiano, vous allez obtenir une petite liste de 7 ou 8 émissions et vous verrez sur la droite, c'est écrit visionnage gratuit ou bien 5 euros ou quelque chose comme ça. Mais même les émissions payantes, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez le droit gratuitement de voir 5 ou 10 minutes. C'est une façon de savoir si on est intéressé par une émission. Et si on est intéressé, en effet, alors on peut s'inscrire et payer par un système internet que j'ai essayé, qui fonctionne très bien, qui est très sécurisé, puisque l'INA n'est pas une petite maison. Donc, bon. Mais cette émission de 1978 est payante. Donc, on peut voir les 10 premières minutes. J'ai vérifié encore ce matin. Et dans les 10 premières minutes gratuites, on peut déjà voir Patrick Modiano parler. Et ça donne une idée. Plus, il était très jeune, très mignon, très sympathique. C'est pas sans intérêt. Une autre émission est disponible gratuitement et intégralement, qui est une émission de 1985. Alors, je vous la conseille parce que ça dure 1h10 ou 1h15. Bon, il faut un petit peu de temps, il faut s'installer devant son écran d'Internet. Et on peut voir Patrick Modiano avec Simone Signoret, la grande actrice, bon, qui présentait un livre aussi. Puisque c'était Au revoir Volodia, je crois que c'était le premier livre de Simone Signoret, et puis quelques autres écrivains. Bon, voilà. Et puis après, vous pourrez chercher toutes sortes de choses qui vous intéressent. Sur le site de l'INA, il y a vraiment énormément de choses. Donc ça, c'est une découverte à faire si vous ne le connaissez pas encore. Également, Patrick Modiano est devenu très connu au cinéma, parce qu'il a écrit le scénario pour un film de Louis Malle qui s'appelle Lacombe Lucien. Lacombe Lucien est un des films de Louis Malle très connu. Louis Malle lui-même est déjà très connu. Et en plus, il a eu une période américaine qui l'a fait connaître beaucoup. Et lorsqu'il est revenu en France, eh bien, il a refait des films. Alors, ce film de Louis Malle est de 1974. Je vais vous mettre le titre, Lacombe Lucien, 74. Et dans ce film, on voit un jeune homme de famille paysanne qui souhaite devenir résistant, mais qui est repoussé par le groupe, parce qu'on a un petit peu peur de lui, de son comportement, et en effet, il va passer de l'autre côté, du côté de la police pro-allemande, et il veut avoir une petite amie, et justement, cette petite amie est juive. Donc, il va la faire chanter, la menacer. C'est ça. Voilà, bon, je vous raconte pas tout. C'est un film très intéressant qu'on doit pouvoir trouver à la médiathèque, je suppose, en DVD. Alors, voilà pour vous présenter Modiano. Pas trop long quand même, parce que vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations en français ou en japonais sur Modiano. Je vous fais passer le livre en japonais. Qui n'existe plus dans les librairies, donc j'ai réussi à le trouver par Amazon d'occasion, donc on peut encore le trouver aussi, si on cherche bien, et puis il y en a un exemplaire ici à l'Institut. Cette édition japonaise est exceptionnelle, exceptionnelle d'abord par sa qualité, il y a des notes qui sont très très bien réalisées, j'ai demandé à ma femme de regarder en détail pour cela, et elle m'a dit que c'est vraiment très très bien. Et en plus, dans cette édition japonaise, on a mis des photos qui n'existent dans aucune édition française, et je crois dans aucune édition internationale jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi, je ne sais pas. L'éditeur japonais a demandé des photos et il a obtenu des photos. Il a obtenu des photos comme ça, je vais vous faire passer. Hein. Et puis à l'intérieur, un certain nombre de petites photos, pas très grandes, hein, mais qui permettent quand même d'avoir une idée de lieu comme ça, et avec des commentaires. Ce sont les lieux dont on parle dans l'action. Également, il y a un plan, alors que je vous ai donné sur la feuille ici, d'ailleurs, plan de Paris général, et puis un plan du quartier qui nous intéresse pour le début du texte, qui se trouve ici à la page 15, voilà, qui est comme ça, qui est donc l'équivalent, tout à fait celui-ci que je vous ai mis ici, et également la petite annonce du journal. Petite annonce du journal que Patrick Modiano a trouvé et qui va être le début de tout pour lui, hein, qui est présenté ici aussi. Donc, ces photos n'existent pas dans l'édition japonaise et dès 1998, quand ce livre est sorti, je les ai scannées et mises en ligne sur Internet, sur mon site Internet. Et il y a toujours eu des visites pour voir ces photos. Alors, cette année, je les ai re-scannées avec une meilleure qualité, parce que le matériel n'est plus le même qu'il y a 10 ans, et je vais les mettre en ligne de nouveau. Donc, je vous donnerai l'adresse la semaine prochaine, je pense. Voilà. Donc, je vous le fais passer. Regardez-le un petit moment, et puis passez-le à côté. On va commencer en même temps à commenter, hein, le titre et puis le texte. Le titre, c'est Dora Brugère. Dora Brugère, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne comme information à un lecteur français moyen? Hein, c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est-à-dire un Français arrive dans la librairie, il voit des livres comme ça, et il y en a un qui s'appelle Dora Brugère. Qu'est-ce qu'il pense? Bon, tout de suite, on pense, c'est peut-être un nom allemand. Si le lecteur, enfin, si le client est un petit peu plus éduqué, il va penser, tiens, Dora, c'est un mot un peu spécial quand même. Ici, à Tokyo, on est un peu déformé parce qu'on connaît Dora Tozin. Mais il n'y a pas de relation. Dora, quand même, c'est le nom d'un camp de concentration. Pas aussi connu que Dachau ou Buchenwald, que tout le monde connaît, mais Dora, c'est le nom d'un camp, le camp de Dora, qui était en fait un camp dans lequel on travaillait. C'était un camp de travail. Et lorsqu'on était presque mort à cause de travailler trop, parce que ce n'est pas des bonnes conditions de travail, bien sûr, on était envoyé au camp à côté, qui était le camp de Buchenwald, où on était éliminé. Donc, ce circuit, si vous voulez, imaginé par les nazis. Dans ce camp de Dora, on fabriquait souterrainement, dans une usine sous la terre, les missiles allemands, qui sont devenus très célèbres parce que ils ont été tirés sur Londres, hein, à travers du côté de l'autre côté de la mer, qui s'appelaient les V1 et V2. Je suppose que vous avez entendu ces termes ici aussi au Japon, V1 et V2. Donc en fait des très très grosses bombes avec un missile pour les envoyer très loin, à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Alors, ça n'a pas très très bien marché. Le V1, ça marchait bien, et le V2, c'était pas extraordinaire. Donc, les Allemands, enfin les nazis, n'ont pas réussi à détruire Londres et l'Angleterre, d'ailleurs, comme ils le souhaitaient. Heureusement, on peut dire, bien sûr. Mais ces V1 et V2 étaient fabriqués dans le camp de Dora, sous la terre, dans une usine secrète. Et donc, le nom de Dora est assez connu. Alors, c'est un peu paradoxal, hein. Un personnage qui s'appelle Dora, et en même temps, le mot fait penser à autre chose, quand même. Et puis, toujours pour le client de la librairie un peu éduqué, Brüder, en allemand. Quelqu'un a fait de l'allemand ici? Parmi vous, non? Brüder, c'est le frère. Ça veut dire frère, justement. Dit Brüder, c'est le frère. Alors bon, voilà, le mot lui-même, c'est le nom d'un personnage, hein, c'est évident. Dora, c'est féminin. Brüder, c'est un nom de famille, plutôt allemand. Mais en dessous, il y a des petits signes, des petites lumières comme ça. Tiens, Dora, c'est le nom d'un camp aussi. Ah, et puis Brüder, ça veut dire le frère. Bon. Alors, quand on sait... Alors, là, il faut quelqu'un un peu mieux informé, hein, comme je disais tout à l'heure, que le frère de Patrick Modiano est mort quand il avait 12 ans, et puis que Dora, ça peut se lire aussi adore, ou adoré, c'est-à-dire le frère adoré, le frère que l'on aimait. Et on verra dans le texte qu'il y a beaucoup de possibilités, hein, de glissement, d'interprétation, et disons de récupération de l'amour pour le frère dans la recherche d'une jeune fille qui s'appelle Dora, elle aussi disparue. Une sorte de transfert, voilà. L'amour du frère adoré a été transféré vers autre chose. Alors, peut-être pas seulement le nom, il faut voir aussi comment ça s'est passé. Et justement, c'est l'objet, on peut dire c'est l'objet de tout le livre, mais c'est déjà l'objet du premier chapitre. Alors, je vais vous lire ce premier chapitre pour qu'on écoute un petit peu la musique, hein, du texte de Modiano, si je peux à peu près... l'interpréter, et puis on va commenter après justement comment ça se passe, quel type d'informations on ramasse, quel type d'écriture nous avons devant nous. Donc voilà, le lecteur a pris ce livre, Dora Brüder, oui, ça doit être le nom d'une personne, on va parler de cette personne, certainement, on va la présenter, et en effet, dès la première page, on recherche une jeune fille, Dora Brüder. Donc on est quand même dans le sujet. Je vous lis ce premier chapitre. Il y a 8 ans, dans un vieux journal parisoir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu Paris. On recherche jeune fille, Dora Brüder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pullover bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toutes indications à Monsieur et Madame Brüder, 41 boulevard Ornano, Paris. Ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps. Dans mon enfance, j'accompagnais ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen. Nous descendions de l'autobus à la porte de Clignancourt et quelquefois devant la mairie du 18e arrondissement. C'était toujours le samedi ou le dimanche après-midi. En hiver, sur le trottoir de l'avenue, le long de la caserne Clignancourt, dans le flot des passants, se tenait, avec son appareil à trépied, le gros photographe au nez grumeleux et aux lunettes rondes qui proposait une photo souvenir. L'été, il se postait sur les planches de Deauville, devant le bar du soleil. Il y trouvait des clients. Mais là, porte de Clignancourt, les passants ne semblaient pas vouloir se faire photographier. Il portait un vieux pardessus et l'une de ses chaussures était trouée. Je me souviens du boulevard Barbès, et du boulevard Ornano désert, un dimanche après-midi de soleil, en mai 1958. À chaque carrefour, des groupes de gardes mobiles à cause des événements d'Algérie. J'étais dans ce quartier l'hiver 1965. J'avais une amie qui habitait rue Championnet, Ornano 49-20. Déjà à l'époque, le flot des passants du dimanche, le long de la caserne, avait dû emporter le gros photographe. Mais je ne suis jamais allé vérifier. À quoi avait-elle servi cette caserne ? On m'avait dit qu'elle abritait des troupes coloniales. Janvier 1965, la nuit tombait vers 6 heures sur le carrefour du boulevard Ornano et de la rue Championnet. Je n'étais rien. Je me confondais avec ce crépuscule, ces rues. Le dernier café, au bout du boulevard Ornano, côté numéro pair, s'appelait Verse Toujours. À gauche, au coin du boulevard Ney, il y en avait un autre avec un jukebox. Au carrefour Ornano-Championnet, une pharmacie, deux cafés, l'un plus ancien, à l'angle de la rue du M. Ce que j'ai pu attendre dans ces cafés, très tôt le matin quand il faisait nuit, en fin d'après-midi, à la tombée de la nuit, plus tard à l'heure de la fermeture. Le dimanche soir, une vieille automobile de sport noire, une Jaguar, me semble-t-il, était garée rue Championnet, à la hauteur de l'école maternelle. Elle portait une plaque à l'arrière, GIG, Grand Invalide de Guerre. La présence de cette voiture dans le quartier m'avait frappé. Je me demandais quel visage pouvait bien avoir son propriétaire. À partir de 9 heures du soir, le boulevard était désert. Je revois encore la lumière de la bouche du métro Simplon et, presque en face, celle de l'entrée du cinéma Ornano 43. L'immeuble du 41, précédant le cinéma, n'avait jamais attiré mon attention et pourtant, je suis passé devant lui pendant des mois, des années, de 1965 à 1968. Adresser toutes indications à Monsieur et Madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Voilà ce premier chapitre, très très simple en apparence, ne présente pas de difficultés de construction de phrases comme chez Proust ou chez Céline, ne présente pas de vocabulaire très très élaboré, très difficile pour tout le monde, n'est pas spécialement elliptique, pas mystérieux, et plein d'informations, tellement d'informations qu'on est obligé de lire plusieurs fois, parce que les dates, ça va très vite. Hein. 41, après on passe à 58, 65, 65, bon. On va aller jusqu'à 68. Donc, du point de vue temporel, comme ça, ça va de 41 à 68, un peu rapide, hein. Mais si on regarde un peu en détail, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que, d'abord, il est question de deux choses très différentes. D'un côté, Dora Bruder, alors ça c'est 41, pour l'instant c'est que 41, et puis de l'autre côté, la personne qui est en train d'écrire ou de parler, qui dit « je », et qui, aussitôt, commence à nous donner des informations sur sa propre vie. Donc, 58, 65, 68, voilà, des événements de sa vie. Alors, bien sûr, on comprend très vite, c'est la lecture de ce petit article de journal a réveillé la mémoire du narrateur. Ça arrive à tout le monde, hein. Je crois. On lit comme ça un vieux journal, on voit une vieille date, et puis on pense à soi-même. Qu'est-ce que je faisais cette année-là ? Ah oui, c'était l'année des vacances à tel endroit, et telle personne de la famille. Enfin, donc c'est un mouvement, si vous voulez, de mémoire, de souvenir, qui est complètement normal. Alors bien sûr, on peut se demander, est-ce que c'est raisonnable d'écrire un livre, hein, de commencer un livre avec cette sorte de coïncidence? Est-ce que c'est suffisant, finalement, pour tenir une histoire comme ça pendant un livre? Et justement, toute la question, je crois, du livre, enfin au moins des 50 premières pages, c'est de savoir quelle est la motivation du narrateur, on va dire, après la surprise. Donc, première impression, ah oui, boulevard Ornano, ah, je connais bien ce quartier, bon, voilà. Mais on ne peut pas faire un livre avec ça. Donc, quelle est la motivation profonde? Qu'est-ce qui est encore caché? Peut-être pour le narrateur lui-même, hein, au début, il ne sait pas encore pourquoi ça l'intéresse. Ça l'intéresse, il a été piqué, il a été attrapé, accroché, comme on dit. Hein, lui-même, il dit d'ailleurs dans la première phrase, « Je suis tombé, à la page 3, sur une rubrique. » Le verbe « tomber sur ». Tomber sur quelque chose, tomber sur quelqu'un, c'est la surprise. Hein. C'est pas prévu, on n'a pas rendez-vous. Et ça arrive. Oh, tiens. Bon. Alors, c'est surprenant, ça peut être intéressant, il y a une curiosité. Et si on va plus loin, si on continue avec ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière la surprise, derrière la première curiosité. Alors, c'est ce que je vous propose de découvrir après la pause. On va faire une petite pause de 7-8 minutes. Et puis ensuite, on va regarder le texte plus en détail, au moins pour ce premier chapitre.
J'ai essayé d'acheter cette version.
Oui.
Il a été épuisé.
Bien sûr. Oui, moi aussi, j'ai essayé. Donc, je l'ai trouvé d'occasion sur le site Amazon, sur Internet. La librairie en ligne Amazon. Vous connaissez le nom? Non? C'est le site de la librairie, uniquement sur Internet. Et alors, bien sûr, ils vendent tous les livres, disques, neufs et beaucoup d'autres choses. Mais ils ont maintenant un réseau avec des petites librairies, par exemple de Kanda ou autre chose. Et bien sûr, si vous allez à Kanda, vous faites tous les magasins, ça prend très longtemps. C'est un grand travail et peut-être vous pouvez trouver, mais c'est pas sûr. Alors qu'avec Amazon, donc par Internet, si on trouve le livre, on sait dans quelle boutique il est et on peut le commander par Amazon. Et donc je l'ai reçu à la maison. Et donc quand il est sorti en 98, il y en avait beaucoup ici même. Hein, on l'a vendu à la librairie et puis après ça a disparu. Et c'est dommage. Quoi. Donc il y en a un ici à la médiathèque. Donc ça, on peut l'emprunter. Et puis, si vous en avez besoin, je peux vous le prêter aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Je vous fais confiance, je vous connais bien. Et puis, si vous cherchez, peut-être par Amazon, vous pouvez le trouver. Je crois qu'il y en avait plusieurs quand j'ai cherché. Il y a plusieurs boutiques qui le vendaient. Donc on doit pouvoir le trouver encore.
C'est comme ça. On peut voir le site d'Amazon.
Ah oui? Ah ouais, ouais, tu peux essayer.
Dites-moi.
Bonjour.
Ah, je pense là. C'est une
année
tout d'un.
Allez, Naska. Nicolas.
On dit en 2 millions.
Ah oui.
Vous êtes ça, alors j'ai exagéré. Oui, oui, j'ai acheté comme ça. Il est arrivé à la maison. Voilà. À l'université. J'ai déjà un compte Amazon. Alors, tu vas l'acheter? Non, mais il est vraiment bien. Hein. L'édition japonaise, c'est la même.
Je voudrais l'avoir. C'est
4 bah, ah ouais. Non, 1冊は5000円.
Oui, c'est moins cher que ce que j'ai dit tout à l'heure.
Amazon Prime.
Tu peux l'acheter pour madame. Non, sinon moi je peux le faire parce que j'ai un compte Amazon. Donc, dès que je rentre à la maison, je peux commander et peut-être la semaine prochaine, enfin, le recevoir. Ça vous intéresse? Vraiment? Il y a d'autres personnes qui souhaiteraient cette édition japonaise? Oui? Donc, deux.
Oui,
monsieur.
Si c'est propre,
oui, ben il y a des descriptions. Hein. Donc, j'essaye d'en acheter trois. Bon, alors, quatre, je vais acheter les quatre. Allez, envoyez.
Ah, le quatrième, très cher.
Ah bon, ah oui.
En 5 millions.
Ah oui, mais je ne veux pas non plus. Donc, on va acheter à un prix raisonnable, et puis on verra après. Revenons au texte. Le texte commence par cette phrase assez simple pour un étudiant de troisième année ou de deuxième année de français. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique d'hier à aujourd'hui. Point. Donc, première phrase avec un sujet principal de la phrase qui est « je ». Je suis tombé. Je suis tombé sur. C'est l'expression « je suis tombé sur ». Donc, un narrateur personnage qui dit « je », qui parle avec le passé composé. Le passé composé, donc ça ressemble un petit peu à la conversation, plus que l'imparfait et le passé simple, surtout plus que le passé simple. 31 décembre 1941, je tombais à la page 3 sur une rubrique, vous voyez, je tombais, un T-O-M-B-A-I, le passé simple, ça serait tout de suite plus littéraire. Donc, je suis tombé, héritage de Camus, par exemple, hein, quelque chose qui sonne à l'oreille comme plus oral, comme une parole, comme quelqu'un qui parle. Et d'ailleurs, le verbe « je suis tombé », c'est du niveau de la conversation courante. C'est pas un très haut vocabulaire littéraire. Donc, dès le début, nous avons l'impression, en tant que lecteur, hein, nous avons l'impression d'une voix qui nous parle et qui commence à nous raconter quelque chose. Ce quelque chose commence précisément avec des dates. Et tout de suite, plusieurs dates. Et en fait, tout de suite, un double système de dates. Double système. Pourquoi ? Parce que il va être question de 1941, c'est la date du journal, 31 décembre 1941. C'est écrit sur la page du journal. Le 31 décembre, c'est quand même le dernier jour de l'année, il faut le penser. Le soir du 31 décembre, en France, dans la tradition française, on fait la fête pour finir l'année et on mange bien, on boit bien, on danse si c'est possible, jusque très très tard dans la nuit et le lendemain on se lève très tard, on est fatigué, etc. Tout à fait différent de la tradition japonaise. Hein, le 31 décembre, on se couche tôt et le matin du 1er janvier, alors, pour les Japonais, ça, c'est ce qui est important. Donc là, il y a un changement culturel très important que vous devez penser. Mais le 31 décembre 1941, c'est-à-dire pendant la guerre, là, il n'est pas sûr que tout le monde puisse faire la fête. Parce que, voilà, même un lycéen japonais, quand même, connaît les dates de la guerre, tout le monde les connaît, et 1941, ça fait un signe très fort, c'est pendant la guerre. Et donc, il y a une sorte de opposition, contradiction. 31 décembre, c'est la fête, c'est le réveillon du nouvel an. Et 1941, ça c'est pas la fête, c'est la guerre. Donc c'est comme si la date elle-même portait une double force, un contraire, qui peut-être s'annule et ça devient un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut faire à Paris le 31 décembre 1941? Alors il faudra regarder en détail, hein. Mais là, c'est la date du journal, et dans ce journal, on trouve une petite annonce qui annonce justement la disparition d'une jeune fille. Alors on peut imaginer, hein, ses parents, monsieur et madame Bruder, le 31 décembre, ils sont peut-être chez eux, riches ou pas riches, je ne sais pas, ils ont peut-être préparé quelque chose pour le réveillon, mais leur fille n'est pas rentrée, elle a disparu. Et donc déjà depuis plusieurs jours, parce qu'ils ont mis une annonce dans le journal. Donc ça fait au moins 2, 3, 4 jours, on a commencé à s'inquiéter. Voilà. Toutes ces choses, Patrick Modiano reviendra après là-dessus, hein, les parents, comment ça s'est passé. Bon. Mais nous-mêmes pouvons l'imaginer en tant que parents ou que membres d'une famille. C'est tout à fait simple. Alors, donc cette première temporalité, ce système de temps, hein, la date du journal, et de l'autre côté, du côté du narrateur, je. Alors lui, il nous dit, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Oui, mais 8 ans, par rapport à quoi? Par rapport à aujourd'hui, le jour où ce narrateur parle ou écrit. Mais il ne nous dit pas quand il écrit. Donc c'est, pour lui c'est évident, parce qu'il est en train d'écrire, donc c'est maintenant. Et je commence, j'écris il y a 8 ans, bah, c'est voilà, c'est 2000, l'année 2000. Donc ce caractère d'évidence de l'écriture, il est très important. J'écris il y a 8 ans, et c'est évident pour moi que c'est à partir de maintenant. C'est même dans la grammaire française, c'est comme ça. Si on veut dire par rapport à une date précise, on ne dit pas il y a 8 ans, on dit 8 ans avant. Et là, en effet, vous dites, voilà, 1974, bon, ben, 8 ans avant, voilà, mais ce n'est pas aujourd'hui. Il y a 8 ans, ça veut dire à partir d'aujourd'hui. Mais on ne donne pas l'information au lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on ne donne pas l'information au lecteur? Ça veut dire que c'est comme si le lecteur n'existait pas. Comme si j'écris pour moi tout seul, pour moi-même. Par exemple, j'écris mon journal, ou bien j'écris ma biographie. Ça, c'est l'écriture qu'on va appeler l'écriture intime. L'écriture personnelle, l'écriture intime. Et le texte va nous donner beaucoup d'informations, d'indices qui nous font penser que c'est une écriture intime. Alors bien sûr, c'est une construction. C'est fait exprès par Patrick Modiano. On veut donner l'impression de l'écriture intime. C'est-à-dire, ce n'est pas une écriture intime comme votre journal personnel, c'est le livre d'un écrivain. Donc cette écriture intime, c'est un effet qui est produit par un écrivain. Donc l'écrivain réfléchit pour produire ce qu'on peut appeler un effet d'écriture intime, ou bien un effet d'intime. Voilà exactement ce qu'on pourrait appeler, dans un premier temps, disons, ce style, hein, ce genre de style, ce type d'écriture qui nous est proposé et qui nous donne tout de suite un effet d'écriture intime. Et alors, moi, je suis le lecteur, j'ouvre ce livre, comme ça, puis je rentre un peu clandestin. Hein, j'ai pas demandé, et genre, je commence à dire, ah, c'est quoi cette histoire? Bon, voilà, c'est tout à fait construit comme ça, par Modiano. Je suis tombé à la page 3 sur une rubrique d'hier à aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui, ça veut dire entre le jour et le lendemain. Hein, donc c'est des choses très rapides, très, très récentes, des nouvelles. Aujourd'hui, on dit des news. Les dernières news. Last news. Au bas de celle-ci, donc de cette rubrique, j'ai lu. Et là, donc, le texte qui est reproduit ici, exactement copié dans le journal. Hein, donc, vous avez la forme que ça a dans le journal. Petite annonce. Lue par qui? Hein, on peut se demander d'ailleurs qui va lire cette petite annonce le 31 décembre 1941. Est-ce qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui vont le lire? Ça veut dire aussi, qu'est-ce que c'est ce journal? Paris Soir, c'est le titre du journal. C'est un petit journal? C'est un grand journal? Il faudrait savoir. Parce que à l'université aussi, on a un petit journal comme ça avec des petites annonces. Il y a 300 personnes qui lisent ça. Alors il faut savoir que Paris Soir, c'est un grand journal. C'est, si vous voulez, le Mainichi Shimbun de 1940-41, depuis assez longtemps déjà. Alors précisément, c'est un journal... Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est un journal qui a été fondé en 1923, donc il n'est pas nouveau, hein. 1923, et il a commencé à très très bien marcher au niveau national à partir de 1930 à peu près. Il est devenu un des deux ou trois grands journaux français, comme aujourd'hui Le Monde, si vous voulez, pour les journaux français. C'est un journal qui est plutôt considéré comme de gauche. Pas extrême gauche, hein, pas révolutionnaire, mais sensibilité de gauche. On dit comme ça, sensibilité de gauche. Et donc au début de la guerre, 1940, ce journal est obligé de déplacer sa rédaction, sa fabrication. Et il va partir à Clermont-Ferrand, dans la zone libre. Vous savez que la France est coupée en deux. La zone nord, occupée par les Allemands. La zone sud, libre, au moins jusqu'à 1943. Et en zone libre, on va installer le journal Paris Soir à Clermont-Ferrand. Mais à Paris, on va continuer à fabriquer ce journal Paris Soir. Une sorte de faux Paris Soir. Fabriqué par des journalistes, des équipes d'ouvriers, sous la direction franco-allemande d'occupation de la France. Donc en quelque sorte, il y a deux Paris Soir, le faux et le vrai. Et celui-là, donc, c'est à Paris en 1941, donc c'est l'équipe franco-allemande qui fait paraître ce journal. Mais même quand ce journal a continué à paraître à Paris, il a été très très attaqué par les journaux de l'autre côté, c'est-à-dire de droite et d'extrême droite, qui deviennent très très puissants, évidemment. Un journal comme Le Pilori, on pourra en reparler dans quelques temps. le Pilori, qui est un journal, alors vraiment, on pourrait dire presque d'insultes, hein, émanant de l'extrême droite nationaliste et royaliste et collaborationniste, va insulter tous les jours le Paris Soir. Voilà. Le Pilori, vous savez, c'est un lieu de torture. Là où on installe quelqu'un qu'on va torturer, sur le Pilori. Vous vérifierez dans le dictionnaire. Je ne vous fais pas de description maintenant parce que ça va vous empêcher de déjeuner tranquillement, hein, si on explique exactement ce que c'est que le Pilori. Alors, description de la jeune fille. On recherche une jeune fille, Dora Boulder, 15 ans. 15 ans, c'est très important. Elle a 15 ans. Ça veut dire qu'elle est née en 1926. Elle est née en 1926. Et puis, donc, elle a vécu avec sa famille. Pour l'instant, on ne sait rien. Hein, donc, je ne vous dis pas ce qui se passe après. On découvre petit à petit, comme n'importe quel lecteur, mais en essayant de faire attention à tous les détails. 1,55 m, bon, c'est normal. Visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris. Alors, vous voyez, il faut penser que les lecteurs français ne voient pas cette petite annonce. Donc, pour le lecteur français, quand ce livre est sorti, le texte qui est présenté ici a le style de petite annonce. Qu'est-ce que c'est le style de petite annonce ? C'est pas de verbe, pas d'article, hein, pas de liaison comme ça entre les mots. Donc, visage ovale, yeux gris-marron. On ne fait pas de phrase. Elle a les yeux gris-marron. Parce que dans les petites annonces, on doit payer chaque mot. Donc, on raccourcit. Hein, on met le minimum, l'essentiel. Et ça, ça donne le style petite annonce. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'on fait des abréviations de mots. Et donc, on voit des lettres comme ça, TT, ça veut dire... Ou alors TTS, tout de suite. Bon, il faut savoir, hein, c'est une sorte de code, de sous-langage. Et maintenant, c'est avec le Keitai aussi. Keitai, on a le langage Keitai. Il faut écrire vite, court. Hein, je crois en français, en japonais, ça donne la même chose. Manteau sport gris. Manteau sport, alors sport, ça devait être un peu court pour l'époque. Manteau court. Pullover marron, voilà. Et puis, adresser toutes les indications à monsieur et madame Bruder. Très important. Dans la petite annonce, on comprend que ce sont les parents, bien sûr. 41 boulevard Ornano, Paris. Et c'est cette dernière information, 41 boulevard Ornano, qui va tout d'abord attirer la curiosité du narrateur et réveiller ses souvenirs. Et il commence tout de suite après ce quartier du boulevard Ornano. Donc le boulevard Ornano est ce quartier avec un adjectif possessif, hein, ce quartier qui va en quelque sorte le montrer, comme si on le montre sur une carte. Et là donc encore, l'édition japonaise vous propose sa carte avec en effet ce quartier. Vous regardez en détail, que vous pouvez retrouver certainement sur des plans de Paris, que vous avez à la maison, qui est un quartier aujourd'hui, c'est le 18e arrondissement, je crois, et 18e arrondissement, ce n'est pas un arrondissement très, très touristique, hein, on va dire, c'est pas le 6e, le 7e, le 16e, c'est un arrondissement qui est aujourd'hui, en 2008, un arrondissement en cours de rénovation, de changement, mais qui a été pendant très longtemps un arrondissement assez pauvre, population pauvre, beaucoup d'ouvriers, et surtout vers l'extérieur, près de la frontière de Paris, beaucoup d'usines, d'entrepôts, de casernes, de grands bâtiments comme ça, et assez peu de population animée. ou alors justement le narrateur va nous en parler d'autres choses, par exemple les puces. Et en fait, tout de suite, on va abandonner cette date 1941, on ne s'occupe plus de 1941, on va s'occuper du narrateur et de son enfance. Donc, ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps. Alors, j'ai dit que c'était la curiosité qui avait été réveillée, hein, attirée. Et en fait, on peut penser d'une façon un petit peu différente. Le narrateur va détourner l'information. Comme on dit détournement d'avion et détournement de mineur. Hein, c'est-à-dire attraper quelque chose et le prendre pour lui-même. Comme s'il avait volé l'information de l'annonce. Et alors, ah mais moi aussi je connais ce quartier, et donc je vais parler de moi. Alors, on passe de le documentation, qui avait commencé, et on passe tout de suite à une écriture intime, qu'on pourrait en quelque sorte dire autobiographique. Autobiographique, c'est-à-dire je raconte ma propre vie. Alors pas vraiment dans l'ordre, hein. C'est pas comme Jean-Jacques Rousseau, précisément, jour après jour, mois après mois. Non, là, ça va être plutôt des petits morceaux. Des petits morceaux qui vont venir par la mémoire, par le souvenir, et qui vont être associés les uns aux autres par le souvenir. Donc un peu, on ne sait pas très bien comment ça s'associe. Nous-mêmes, hein, vous aussi, quand vous commencez à avoir un souvenir, après vous avez un autre souvenir, quelle est la relation entre les deux? C'est pas toujours clair. Peut-être le psychanalyste peut expliquer, mais on n'a pas toujours un psychanalyste avec nous. Alors, je le connais depuis longtemps. Donc là, ça veut dire, dans la vie du narrateur, ça va être un long passé, et ça commence tout de suite dans mon enfance. Alors en fait, pour ces pages 7, 8, 9, ça va être assez chronologique. Hein, on va suivre à peu près l'ordre chronologique. Donc l'enfance, ensuite on va parler de 58, et ensuite de 65, et puis de 65 à 68. Et enfin, je revois ce cinéma, donc c'est peut-être plus récent, plus actuel aussi, peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son enfance? Eh bien, ça commence avec « J'accompagnais ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen ». Saint-Ouen, Saint-Ouen, les deux prononciations existent, E-N, E-N, Saint-Ouen ou Saint-Ouen. Alors, ces puces, là aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé du site de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Vous pouvez également chercher « Puce Saint-Ouen » et il y a un film documentaire, muet, pas de parole, qui date de 1958, précisément, et qui montre le marché aux puces. J'ai découvert il y a quelques jours en préparant, et alors j'ai regardé ça, c'est très très étonnant, c'était des gens qui posaient des affaires par terre hein, pour vendre. Même pas de table, pas de baraque, pas de boutique, rien du tout. Et tout autour, c'est encore le Paris détruit pendant la guerre, ou bien déjà en cours de reconstruction. C'est-à-dire une zone vraiment urbaine, en plein changement. Et là, on peut voir sur le film, et puis... nous, Français, Parisiens, nous le savons, c'est un quartier où il y a plutôt des couches populaires, c'est-à-dire des populations pas très riches, avec aussi beaucoup d'étrangers, beaucoup d'immigrés, et ça a continué d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, dans ce style. Alors ça veut dire pas très riche, mais ça veut dire aussi très animé, très coloré, très mélangé culturellement. Et ça aussi, c'est très intéressant, d'un certain côté. Hein, donc, il y a deux côtés, il ne faut pas voir que le mauvais. Donc, dès 1958, dans ce film qu'on peut voir sur le site de l'INA, on voit très bien c'est une population mélangée, des gens pauvres, des gens moins pauvres. Il y a d'ailleurs un deuxième petit film avec Jacques Prévert. Tout le monde connaît hein, Jacques Prévert. Alors c'est plus tard, c'est en 65. Jacques Prévert se promène avec quelqu'un et il commente des choses, on regarde des livres, des photos, des choses comme ça, et on voit exactement les puces de Saint-Ouen en 1965, c'est-à-dire exactement ce dont Modiano parle. Donc si vous avez l'occasion, regardez ces films. Et puis c'était assez régulier. Il dit « J'accompagnais ma mère ». Ensuite, à la page 8, il dit « C'était toujours le samedi ou le dimanche à midi ». Donc ce n'est pas une fois, c'est de temps en temps, mais enfin peut-être une fois par mois. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une famille de cette époque, le petit garçon avec sa mère, aller aux puces de Saint-Ouen toutes les deux ou trois semaines ou, bon, ben, ça veut dire qu'on va acheter des vêtements. Des vêtements pour la mère, pour le père, pour l'enfant, si, pour les enfants, s'il y en a deux. Et ça veut dire qu'on n'est pas une famille très riche. Si on est une famille qui est assez riche, on peut aller aux puces une fois, comme ça, pour s'amuser, pour voir. Mais si on y va assez souvent, ça veut dire qu'on a besoin régulièrement d'y acheter quelque chose. Donc c'est moins pour s'amuser. Quand même, hein, c'est plus nécessaire. Donc, peut-être une certaine indication de nécessité hein, financière pour aller aux puces. On va voir d'ailleurs que souvent, les informations données par Modiano sont des informations parcellaires, fragmentaires. Dans tout ce que nous écrivons, hein, d'ailleurs tous les jours, hein, nous écrivons des choses, et quand nous écrivons, il y a toujours des choses qui sont sous-entendues. C'est-à-dire, on ne l'écrit pas, mais quelqu'un va comprendre, évidemment. Si j'écris que je vais faire des courses à Ramla, ça veut dire, sous-entendu, je suis à Tokyo. Je ne suis pas à Kyoto, je ne suis pas à Paris. Donc, je ne l'écris pas, je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est sous-entendu. Présupposé, c'est que si je suis français et que j'habite au Japon, donc je suis venu au Japon et je travaille là. Bon, enfin, il y a une raison pour laquelle j'y suis. Mais ce n'est pas écrit. Donc là aussi, par exemple, pour les puces, dire qu'on revient régulièrement aux puces, eh bien, ce n'est pas écrit « nous sommes une famille pauvre hein, », ce n'est pas écrit. Mais il faut le comprendre, c'est sous-entendu. Sous-entendu, on en a besoin. Et Patrick Modiano est vraiment un grand spécialiste du sous-entendu. Il vous dit une petite chose et derrière, il y a plusieurs sous-entendus. Alors, si vous limitez votre lecture à la petite chose, ce n'est pas très intéressant. Mais si vous faites le travail de réfléchir au sous-entendu, là, ça commence à devenir plus épais, plus gros, plus large. Et ça veut dire que le lecteur doit travailler aussi. Hein. Le lecteur doit participer, s'investir personnellement. Et il faut aussi que le lecteur ait assez d'informations. Donc, l'étudiant japonais à l'université qui ouvre ce livre, eh bien, il ne sait pas. Les puces de Saint-Ouen, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des gens riches ou pas riches? Au Japon, aller aux puces, c'est un peu pour s'amuser. Quoi. C'est pas traditionnel, c'est pas habituel. On va acheter des choses comme ça. C'est pas parce qu'on en a besoin. Ou alors, il y a autre chose au Japon qui existe pour ça. Mais c'est différent. Donc, sous-entendu. En hiver, sur le trottoir. Donc, sous-entendu, on est allé pendant plusieurs saisons. Il y avait de l'été, il y avait aussi de l'hiver. Et en hiver, il y avait un photographe le long de la caserne, Clignancourt. Donc, des passants, le flot des passants, il y a du monde, il y a pas mal de monde. Et avec son appareil à trépied, le gros photographe au nez grumeleux et aux lunettes rondes. Alors, on a l'impression d'une image pour enfants, hein, sorte de dessin pour les enfants. Un gros photographe avec un gros nez grumeleux, hein, ça veut dire le nez avec des formes bizarres, et lunettes rondes. Voilà, donc amusant pour les enfants. Et il propose une photo souvenir. Donc ça veut dire que bien des années après, quand le narrateur se souvient de ce quartier, il pense, ah oui, il y avait les puces, ah tiens, je me rappelle du photographe, oui, avec son gros nez, là, comme ça. C'est le souvenir qui travaille. Également pour nous, c'est le premier portrait. Depuis que nous avons commencé, nous avons eu déjà, en quelque sorte, le portrait de Dora Bruder. Mais ça, c'est dans le journal. Et premier portrait proposé par le narrateur. Et bon, ben, si on regarde ces deux portraits, Dora Bruder, jeune fille disparue d'un côté, photographe avec un gros nez et une chaussure trouée, c'est pas des portraits de gens très importants. Et bon, il faut savoir que la littérature, traditionnellement, au début, c'était pour écrire l'histoire des personnages très importants. Écrire la vie du roi, écrire la vie des princes, c'était ça la littérature au début. Et alors là, la littérature, elle commence par deux portraits de gens qui sont dans la rue. Une fille disparue, un photographe à la chaussure trouée. Voilà l'humanité. Voilà le type d'être humain que nous propose ce livre dès le début. Alors bon, vous aimez pas, hein, ça dépend, mais c'est ce qui est proposé. Et puis on dit que l'été, il allait à Deauville. Comment on peut savoir ça? Donc, sous-entendu, dans ma mémoire, il y a des informations, ça veut dire qu'on a parlé ensemble. Peut-être on a fait des photos aussi, hein. Ben, il le dit pas, bon. Mais on a des informations, donc il y a une communication avec cette personne. Paragraphe suivant, deuxième souvenir. Je me souviens du boulevard d'Arbès et du boulevard Orléans-Désert un dimanche après-midi de soleil en mai 58. À chaque carrefour, des groupes de gardes mobiles à cause des événements d'Algérie. Oula, on change de sujet. D'abord, on change de date. Enfin, on donne une date. Parce que jusqu'à maintenant, c'était enfance, dans mon enfance. Il n'y avait pas de date. Et là, on arrive avec 1958. Donc, dans mon enfance, c'était avant, quoi. Et jusque-là, peut-être après, bon, c'est pas clair. Et 1958. N'oubliez pas, pour l'instant, nous ne savons pas si le narrateur est Patrick Modiano. Ce narrateur, nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas quel âge il a, quand il est né, comment il s'appelle. Nous ne savons rien. Nous savons seulement « je ». Dans mon enfance, Clignancourt, puce, c'est tout. Rien de plus. Hein. Et lorsqu'on sait, c'est que plus tard, il a trouvé un article de journal, il y a 8 ans. On n'en sait pas plus. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai mis pour la semaine prochaine le chapitre 3-4 et puis les pages 50 à 54. Parce que c'est dans les pages 50 à 54 que nous aurons la réponse à cette question précisément où est, qui est, enfin qui, je ne sais pas, mais où est, quand est le narrateur. Alors je reviens à mon boulevard Barbès là. Je me souviens. Alors ce je me souviens, bon, il a l'air banal, hein, tout le monde dit je me souviens. Mais précisément ici, employé comme ça, si on a un peu de connaissances littéraires françaises, ça fait penser à un livre très célèbre de Georges Perec qui s'appelle « Je me souviens ». Je me souviens de Georges Perec a été publié en 1978. Il y avait des petits morceaux déjà publiés depuis 76, mais bon, le livre, c'est 78. Dans ce livre, il y a 480 paragraphes, petits paragraphes, qui commencent tous par « je me souviens ». « Je me souviens de », « je me souviens que », en tout cas. Et à chaque fois, un petit morceau de mémoire personnelle et en même temps collective. C'est ça qui fait le succès de ce texte. Alors, Georges Perec avait pris l'idée à un Américain qui s'appelle Joe Brainard, qui a publié un texte qui s'appelle « I Remember », un poème « I Remember » de Joe Brainard. Un seul N. Voilà, et qui date de 1970. Donc, Joe Brainard, 70, I Remember. Et ça a eu beaucoup de succès, et dans la poésie, disons la nouvelle poésie de cette époque, succès international, et Georges Perec a repris l'idée en changeant un peu, etc. Ensuite, Georges Perec est devenu très célèbre, et ce texte de Georges Perec a été mis en scène au théâtre dans les années 80. Vous l'avouez avec Samy Frey. Hein, oui. Donc on peut trouver maintenant peut-être la vidéo, le DVD ou
CD.
En CD aussi. Voilà, mais en CD on le voit pas. Mais bon, et c'était très impressionnant parce que Samy Frey, un acteur français assez connu, était sur un vélo. Donc sur la scène du théâtre, on a mis un vélo, sur un vélo qui n'avance pas, hein, comme au centre de sport, et avec des draps. Comme ça, et sous les draps, on pousse de l'air. Et donc ça bouge comme ça tout le temps, un peu comme le paysage, quoi, ou le vent. Et donc il pédale, plus ou moins vite, comme s'il monte, comme s'il descend, et il récite tous les paragraphes de Je me souviens. Et c'est vraiment très, très, très impressionnant. Très beau spectacle. Voilà, donc ça c'est très populaire, très connu. Et lorsque Patrick Modiano écrit ici dans son texte « Je me souviens du boulevard Barbès », un lecteur français moyen hein, qui a lu un peu Georges Perec se souvient aussi que c'était Perec. Mais alors bon, voilà, petit clin d'œil, hein, petit glimpse comme ça à Georges Perec. Et Georges Perec, ben, c'est un juif aussi, dont la famille a été déportée et exterminée aussi, qui a vu disparaître ses parents, qui a beaucoup écrit sur ce sujet et qui a beaucoup contribué, qui a beaucoup fait pour que la littérature française se régénère, se rénove, se modernise, y compris par ce thème des juifs déportés, gazés, détruits pendant la guerre. Parce que avant Perec, c'était un peu marginal. C'était politique, c'était documentaire, c'était la mémoire collective, mais pas tellement littéraire. Et Perec a beaucoup fait pour que ça devienne littéraire. Alors, il y a un autre texte de Perec qui est très connu, c'est W. W ou le souvenir. Le titre en français, c'est W. Où il raconte également des souvenirs sous forme de romans plutôt, liés bien sûr à l'extermination. Mais bon, on reparlera de Pérec peut-être une autre fois, où vous avez déjà lu ou suivi des cours avec Michael Ferrier par exemple, qui est un spécialiste de Pérec. Ce boulevard Barbès, boulevard Ornano, bon, c'est à côté, en mai 58. Alors mai 58, bon ben là on parle d'événements d'Algérie. Alors événements d'Algérie précisément en mai 58, c'est une sorte de petit coup d'État à Alger. Vous savez sans doute que l'Algérie était française depuis les années 1830-40, hein, la colonisation au milieu du 19e siècle. Et après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie connaît un fort développement de la volonté populaire d'être indépendant, d'être un pays indépendant. Et donc, soulèvement, organisation, bien sûr, réponse de la France, réponse par des massacres, par la police, etc. Bon, l'histoire de l'Algérie est très, très, très compliquée, donc je ne peux pas entrer dans le détail à 11h50, mais je vous renvoie à des documents qui existent. Hein. Donc ici, en 58, des manifestations dans Paris de musulmans et de Français d'Algérie pro-Algérie française, c'est-à-dire qui sont pour l'Algérie française, qui sont donc contre l'indépendance. C'est très important de voir que c'est ce côté-là. Et puis, quelques temps après, eh bien, ces mouvements, ces événements d'Algérie vont permettre le retour au pouvoir du général de Gaulle. Alors bon, célèbre, très important hein, pour la Seconde Guerre mondiale, qui a ensuite dirigé la France, et puis qui s'était un peu écarté. Et à cause de ces mouvements d'Algérie, de ces événements d'Algérie, il va revenir au pouvoir. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il revient au pouvoir en tant que défenseur de l'Algérie française. Et lui-même, 3 ans après, en 1961, va être celui qui va favoriser l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il va apparaître comme un traître pour tous ceux qui étaient de l'Algérie française, trahi par le général. Ah, c'était un drame national pour ces gens-là. Bon, ici, donc, c'est des événements d'Algérie. Ensuite, j'étais dans ce quartier l'hiver 65. Alors, on ressort de l'histoire avec un grand H, hein, événement d'Algérie, et on revient dans la petite histoire personnelle. J'avais une amie, petite amie, on va comprendre, et d'ailleurs, il se souvient du numéro de téléphone, Ornano 4920. C'est le numéro de téléphone. À cette époque, sur les téléphones, il y avait les lettres. Donc, il y avait le chiffre 1, et avec le chiffre 1, il y avait ABC. Le chiffre 2, EFG. Le chiffre 3, HIJK ou HIJ, je ne sais plus combien de lettres. Et les numéros de téléphone étaient par quartier. Et donc, Ornano, c'est le nom du quartier. Et alors, il fallait mettre le doigt dans le O. O, R, N, A, N. Voilà. O, R, N, je crois, les 3 premières lettres seulement. Et ensuite, les nombres. Donc le système téléphonique a beaucoup changé, bien entendu. Mais Ornano 4920, c'est le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone, celui de la petite amie du narrateur, à cette époque. Et on apprend que c'est entre 65 et 68, donc au moins 3 ans. Et pendant 3 ans, il va régulièrement l'attendre. Alors apparemment, c'est une fille qui est souvent en retard, hein, puisqu'il dit qu'il attend beaucoup dans des cafés. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de garçons qui ont cette expérience d'attendre très longtemps des filles dans des cafés, au moins pour les Français, pour les Japonais, je ne sais pas comment ça se passait. Voilà, et il le dit, hein, au deuxième paragraphe de la page 9, ce que j'ai pu attendre dans ces cafés. Alors, ce n'est pas ce que j'ai pu attendre montrant quelque chose, plutôt c'est l'exclamation. Qu'est-ce que j'ai pu attendre? Ce que j'ai pu attendre? C'est la forme d'exclamation pour indiquer ça. Ça veut dire aussi la façon de parler hein, du narrateur. On a dit tout à l'heure, plutôt il parle. On a l'impression qu'il parle. Voilà. Bon, la semaine prochaine, on reprendra. Mais pour l'essentiel, on a vu ces informations. Il finit par un petit détail où il y avait une voiture avec un invalide de guerre, c'est-à-dire un grand blessé, quelqu'un qui a été un héros de la guerre, qui a eu perdu des jambes ou des bras ou quelque chose. Et il aurait bien aimé voir son visage. Qu'est-ce que c'est un héros de la guerre? Sous-entendu, mon papa, je ne sais pas si c'était un héros. Bon, mais on ne peut pas le savoir. Moi, je vous le dis, mais on ne peut pas le savoir. Et puis enfin, le cinéma. On arrive à l'immeuble du 43. Il y a un cinéma. Et à côté, c'est le 41. Et justement, le 41, c'est l'adresse de la famille Bruder dans la petite annonce, 41 boulevard Ornano. Et donc, le narrateur nous a fait une promenade dans son passé, et en même temps dans le quartier, le boulevard, la rue, la caserne, ça va. Et on arrive au 43, il y a un cinéma, et à côté au 41, c'est là, c'est l'immeuble. Cet immeuble des Bruder, où les Bruder habitent. Il n'a jamais fait attention à cet immeuble. Il est passé devant, comme ça, pendant des années. Et il finit, en quelque sorte, en fermant la parenthèse, fermer la parenthèse de la petite annonce, adresser toutes indications à monsieur et madame Bruder. Comme s'il avait répondu lui-même, hein, bien sûr, beaucoup d'années après, beaucoup d'années plus tard, il a répondu au Bruder. Quelqu'un a répondu à la petite annonce. Et peut-être en 1941, personne n'a répondu, hein, malheureusement. Elle a disparu. Voilà, donc la semaine prochaine, on continue 2, 3, 4, on ira un peu plus vite. Il n'y a pas de présentation de Modiano à faire.
Est-ce que la caserne de première fois, on peut dire que...
En fait, elle avait vraiment des troupes coloniales, j'ai vérifié ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Sans doute, ce qui est impressionnant dans la caserne, c'est que c'est très long. Vous avez un mur comme ça, un peu comme Boéchaud, là, vous passez sur le côté, vous passez le long d'un mur, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ça, en fait. Et sinon, historiquement, il n'y a rien de particulier. Par rapport à la guerre d'Algérie, peut-être, ouais, des troupes coloniales, mais j'ai rien trouvé de spécial, au moins pour 58. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. Et donc, je vais commander les exemplaires qui ne sont pas trop chers, qui sont à un prix raisonnable. Et je vous les apporte dès que je les aurai.
Merci.
Au revoir. Merci.